양이 쿠.
라 라디오 리브 에 아소시아티브.
브라우.
Attends, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Bon, on va commencer, on va faire une émission sur la Palestine, en fait, hein, puisque dans un premier temps, on va parler de la tentative de l'État français de dissoudre deux associations sur la Palestine, de solidarité avec la Palestine, qui ont échoué. Ces deux tentatives ont échoué. On vient d'apprendre, d'ailleurs, que pour le GAL, le groupe antifasciste de Lyon et des environs, ça va être la même chose. Darmanin, vraiment, il termine très mal son mandat. Voilà, donc on va parler de ça avec Tom. Tom, tu nous entends ?
Très bien, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Tom.
Bon, alors, tu fais partie du collectif Palestine Vaincra de Toulouse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous avez appris que l'État français essayait de vous dissoudre ?
Eh bien, en deux temps. D'abord, en fait, ces menaces de dissolution, elles sont venues de la part du gouvernement israélien et de ses supporters en France. En février 2021, le ministère de la Sécurité intérieure, Benny Gantz, israélien, avait classé comme organisation terroriste en Israël le réseau Samidoun, auquel nous appartenons, ainsi que le collectif. Suite à cette désignation en tant qu'organisation terroriste en Israël, le lobby pro-israélien en France a fait une campagne pour demander notre dissolution auprès du gouvernement. Donc voilà, donc ça c'était la première étape. Cette campagne, elle a duré un an. Et au bout d'un an, on a appris sur Twitter, par un tweet de Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, qu'il avait la volonté de dissoudre le collectif. Voilà, donc ça c'était le 24 février, c'était quelques heures avant le dîner annuel du CRIF, la principale organisation pro-israélienne en France. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a appris cette attaque, qui est une attaque sans précédent contre le mouvement de solidarité avec la Palestine en France.
D'accord, et la décision a été prise, je crois que c'est 9 mars.
Oui, elle a été prise quelques semaines après, en Conseil des ministres le 9 mars. Voilà, avec des accusations à la fois mensongères, outrancières, des calomnies, etc.
Et justement, sur quelle base il justifiait ou il tentait de justifier cette dissolution ? Il utilisait la fameuse la loi de dissolution des ligues, c'est ça ?
Oui. Ils utilisaient une loi qui était censée lutter contre le fascisme pour dissoudre une organisation antisioniste, c'est-à-dire antiraciste. Donc ça manque pas d'ironie.
Oui.
Voilà, après ils nous accusaient d'incitation à la haine, à la violence et à des actes terroristes. Voilà, parce que nous sommes antisionistes, parce que nous sommes anticolonialistes et parce que nous soutenons les prisonniers politiques palestiniens et notamment Georges Abdallah. Donc c'était ça qui nous reprochait.
C'est peut-être l'occasion justement de dire quels sont les buts et quelles sont les actions du collectif Palestine Vaincra, s'il te plaît. Ouais.
Ouais, le collectif Palestine Vaincra, et on l'a fondé en 2019 à la suite d'un travail de 10 ans sur la ville de Toulouse en soutien à Georges Ibrahim Abdallah en particulier et à la Palestine en général. C'est un collectif qui est membre d'un réseau international qui s'appelle Samidoun, qui est un réseau de soutien aux prisonniers politiques palestiniens. Et le collectif Palestine Vaincra défend une position anticolonialiste conséquente, c'est-à-dire que nous soutenons la résistance palestinienne sous toutes ses formes pour la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, une Palestine libre, démocratique et multiculturelle. Dans ce cadre, on a l'honneur d'avoir Georges Abdallah comme membre d'honneur du collectif. Et c'est un de nos axes importants, la campagne pour la libération de Georges Abdallah, parce que on considère que c'est inadmissible qu'un prisonnier de la cause palestinienne, un communiste arabe, soit emprisonné en France depuis plus de 37 ans. Quand on est un militant pro-palestinien, pour nous, on doit soutenir la libération de Georges Abdallah.
On aura l'occasion de développer un peu plus, effectivement, sur la situation de Georges, on espère à un moment dans l'émission. On se souvient qu'il y avait eu, effectivement, plusieurs attaques vis-à-vis des groupes ou des personnalités qui agissent en solidarité avec la Palestine ou qui défendent simplement une position antisioniste. On a eu l'occasion de le voir notamment avec quelques représentants des lobbies pro-israéliens et pro-sionistes. De sinistre mémoire, il y en a un qu'on connaît bien, c'est Meir Habib, qui est un député qui fait énormément d'esclandre là-dessus, qui est un des relais extrêmement importants de la propagande israélienne. On avait eu aussi des attaques contre le collectif BDS, hein, boycott des investissements sanctions, et puis on avait eu aussi des tentatives avec Valls d'illégaliser quelque part la des positions ou d'interdire de défendre des positions antisionistes dans l'espace public et politique français. Mais jamais on n'était arrivé à ce degré, on va dire, de pratique, ou en tous les cas, comment toi tu l'interprètes ou comment tu peux expliquer qu'il y ait eu cette espèce de poussée énorme, quoi.
Bah, pour nous, il y a deux phénomènes parallèles. Il y a d'abord une radicalisation autoritaire du gouvernement Macron, qu'on a vu dans le cadre de la répression des manifestations, qu'on a vu dans le cadre de l'adoption de lois liberticides, la loi sur le séparatisme et la loi sécurité globale, avec un enchaînement de dissolution d'associations et de groupements de faits extrêmement important, en particulier ouais. Des organisations musulmanes et antiracistes. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que sur la question de la Palestine, on voit le gouvernement Macron qui opère un virage à droite, voire à l'extrême droite, et un alignement politique avec la droite israélienne et la droite américaine. On l'a vu par exemple dernièrement quand Jean Castex, au dîner du CRIF, a déclaré que Jérusalem était la capitale éternelle du peuple juif.
C'est ça.
C'est mot pour mot la déclaration de Trump avant de déplacer son ambassade à Jérusalem. Donc on voit qu'il y a une radicalisation à la fois autoritaire et à la fois un alignement politique avec Israël et les États-Unis sur la question palestinienne. Alors nous, on n'était pas des grands défenseurs de la position de la diplomatie française avant, parce que pour nous, évidemment, le côté hypocrite qu'ils avaient de soutenir le processus de paix et la solution à deux États, c'était une manière de proposer une colonisation à un visage humain. Mais là, ils ont pris un virage et nous, on a été une des cibles, mais en fait, on n'est pas, c'est pas un cas isolé. Il y a Il y a une offensive de vouloir criminaliser la campagne de boycott d'Israël. Il y a une stratégie de vouloir assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme, notamment à travers la définition de l'IHRA, et aussi avec les politiques dites antiterroristes, qui visent à réduire au silence les organisations qui soutiennent la résistance palestinienne.
Ok. Après, comment ça s'est passé ? Vous avez donc décidé de faire un recours au oui. Conseil d'État. Et finalement, ça a bien fonctionné.
En fait, on a déposé deux recours. Un recours en suspension et un recours en annulation. Donc là, la première victoire qu'on a obtenue, c'est un recours en suspension. C'est-à-dire que la décision ouais. est suspendue. Mais il reste la principale bataille à mener, c'est arriver à gagner l'annulation. Donc c'est la prochaine étape, ce qui devrait arriver dans environ un an.
D'accord.
Voilà. Après, nous, on a mené une bataille à la fois juridique sur le fond des accusations afin de démonter l'argumentaire du ministère de l'Intérieur en association avec des organisations qui sont portées intervenantes volontaires dans la procédure juridique, en particulier l'Union juive française pour la paix, la SPS et l'Union syndicale solidaire. Et parallèlement, on a mené une campagne politique de dénonciation de cette décision à travers un comité de soutien à Toulouse qui était composé de plus de 30 organisations, syndicats, associations, partis politiques, et il y avait plus de 150 organisations à travers la planète qui nous ont envoyé des déclarations de soutien et qui ont organisé des initiatives de solidarité. Donc pour nous, cette première victoire, c'est une victoire qui est collective. Parce que toutes ces organisations et toutes ces personnes qui se sont mobilisées avaient bien compris qu'en fait, derrière la dissolution de notre collectif, c'était une attaque contre la liberté d'expression, c'était une attaque contre la liberté d'association, et c'était une attaque contre le mouvement antiraciste et anticolonialiste en France. Et par rapport à ça, il était du devoir des anticolonialistes et des antiracistes de se mobiliser.
Ah, quelque part, vous avez eu la bonne stratégie qui a été de retourner l'attaque et de repolitiser cette question afin vraiment d'utiliser ce moment de la répression de l'État comme une arme, quoi, en fait, hein, comme en développant une solidarité et justement en obligeant à remettre dans le débat public la question de la Palestine d'une part et, comme tu l'as dit, de l'anticolonialisme et de l'antiracisme. Est-ce que tu peux expliciter, alors sans entrer dans des grandes exposés juridiques, les motivations de la décision du Conseil d'État ? Tu parlais de suspension, c'est ça ? De suspension de la procédure ?
Oui, donc il y a une suspension de la procédure, mais le Conseil d'État s'est quand même prononcé sur le fond de l'affaire à plusieurs niveaux, notamment sur la question du boycott d'Israël. Il a rappelé la jurisprudence qui est liée à la Cour européenne des droits de l'homme, qui en juin 2020 a condamné la France pour entrave à la liberté d'expression quand elle a condamné des militants qui appelaient au boycott des produits israéliens. Et ça, c'est une nouvelle très importante et c'est un camouflet sans précédent contre les partisans de l'apartheid israélien, parce que ils opèrent depuis plusieurs années une campagne de mensonges qui dit que le boycott d'Israël est illégal en France, s'appuyant sur des décisions de justice isolées, alors qu'en fait il n'y a aucune loi en France qui interdit le boycott en général et encore moins le boycott d'Israël. Et donc la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, appuyée encore par le Conseil d'État, réaffirme le fait que le boycott d'Israël bon, évidemment, c'est un outil légitime de mobilisation quand on est des militants antiracistes, mais c'est aussi un outil qui est légal. Donc ça, c'est un des éléments qui est très important. Un autre élément de l'affaire, c'est sur la question de la modération des réseaux sociaux et des commentaires Facebook, parce que l'essentiel du document du ministère de l'Intérieur prétextait la présence de commentaires qui inciter à la haine ou au racisme afin de justifier la dissolution. On a fait la démonstration auprès du Conseil d'État qu'on avait une politique de modération, évidemment qu'il y avait des faiblesses, mais en fait parce qu'on est un collectif local, donc on n'a pas les moyens de l'État ou de grands médias, et pour autant il y a plusieurs pages de responsables d'État ou de grands médias qui sont le nid de commentaires haineux et racistes. Donc le Conseil d'État a relevé qu'en fait c'était un argument qui en tout cas ne justifiait pas une procédure aussi radicale que la dissolution.
Oui, le boycott, c'est un outil efficace pour pouvoir, on va dire, agir à son niveau. C'est d'ailleurs un outil, un moyen qui est extrêmement redouté par le gouvernement israélien, puisque ça permet à chacun et à chacune de saisir de cet outil. Alors c'est quoi? C'est faire de l'information déjà sur les produits, mais aussi les liens culturels, politiques, industriels, financiers, commerciaux qui ont lieu entre des entreprises françaises et des entreprises israéliennes. Et c'est de dire et d'expliciter à ceux qui se rendent ou utilisent ou consomment des produits qui sont notamment, j'allais dire produits, effectivement, oui, fabriqués ou en tous les cas fabriqués par des travailleurs israéliens ou fabriqués dans les colonies ou en tous les cas issus de la colonisation et de l'occupation israélienne, que ils peuvent éventuellement s'en priver, quoi, en tous les cas l'acheter ou le consommer en connaissance de cause, en tous les cas dans un premier temps. Et ça, c'est c'est vraiment une grande préoccupation de la part du gouvernement israélien. On a pu le mesurer à de nombreuses reprises sur les délires qu'il y avait pour on va dire stigmatiser et disqualifier cet outil-là.
Oui, et en fait, le gouvernement israélien a dépensé des millions de dollars dont l'objectif était de nuire à cette campagne, la campagne BDS. Notamment à travers le ministère des Affaires stratégiques, qui a pour vocation à tenter de criminaliser le boycott dans le monde, et en particulier dans les pays occidentaux. Mais en dépit de ces attaques, on voit que le mouvement de boycott, c'est un mouvement qui est croissant, qui se développe en France, mais qui se développe aussi, par exemple, en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, où il y a, notamment dans les campus universitaires nord-américains, des campagnes importantes de boycott pour que les universités américaines et canadiennes se désinvestissent de contrats avec des firmes israéliennes. Et nous, évidemment, c'est une campagne qu'on porte. On la porte au plus près, c'est-à-dire on fait une campagne de terrain, de sensibilisation. Et pour nous, le boycott, c'est pas juste une position individuelle, c'est aussi un boycott collectif et politique. C'est aussi en discutant autour de nous, en parlant, en sensibilisant et en faisant que les gens s'en emparent et refusent d'acheter des produits israéliens, refusent d'acheter des produits d'entreprises complices de l'occupation comme Puma, HP ou AXA, etc.
Oui, c'est un très très bon outil, comme tu dis, pour démarrer des conversations, des discussions, pour politiser. Et puis, en plus, ça crée, on va dire, un lien direct avec le mouvement palestinien lui-même, puisque c'est une campagne qui est d'abord initiée et portée, par les Palestiniens eux-mêmes, et qui a été lancée par Barghouti et ses camarades.
Oui, et en fait, le boycott palestinien d'Israël et des produits sionistes, c'est une campagne qui existe depuis près d'un siècle, qui a commencé dès le début de la colonisation sioniste en Palestine. Donc depuis le début de la résistance palestinienne, il y a un boycott palestinien, un boycott arabe et un boycott international, donc qui a été redynamisé par l'appel de 2005 de la société civile palestinienne, et qui aujourd'hui s'intensifie, se développe. Et il s'intensifie, se développe d'autant plus quand on voit l'hypocrisie occidentale sur la question du boycott, pour qui ça pose pas de problème d'appeler au boycott de la Russie ou de la Chine, parce qu'ils ont des intérêts économiques, diplomatiques ou politiques qui sont divergents. Mais par contre, quand il s'agit d'appeler au boycott d'un allié stratégique de la France, c'est-à-dire Israël, là, tout le monde trouve ça scandaleux. Donc, au regard de l'évolution de la situation et de la politique française en la matière, les gens sont de plus en plus sensibles vis-à-vis du boycott d'Israël et voient très bien qu'en fait, à la fois le chantage à l'antisémitisme, à la fois la politique de criminalisation du boycott, ce sont juste des tentatives afin de réduire au silence les supporters du peuple palestinien et de la justice.
Et c'est pour ça justement qu'il faut utiliser toutes les occasions possibles pour pouvoir publiciser ce boycott et de dire que c'est bien de regarder la télé et de se sentir solidaire des Palestiniens, du peuple palestinien, mais qu'on peut aussi agir concrètement, directement. C'est assez simple, hein. Il y a tout un tas d'informations qu'on peut choper sur le net et sur votre site. Mais les produits où il y a des petites étiquettes, Jaffa, etc. Si possible, non, quoi. Non, c'est pas possible. possible, quoi.
Sauf quand tu fais tes courses.
Exactement.
La provenance, c'est marqué, hein, Israël.
Oui, normalement, oui. Il y a des codes-barres aussi parce qu'ils sont aussi intelligents.
Il faut faire attention parce que de temps en temps, il y a des produits qui sont trafiqués par le Maroc. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont le numéro du Maroc. En fait, c'est des produits qui viennent d'Israël.
Oui, notamment c'est le cas pour l'entreprise Méadrine, qu'en fait qui a des contrats avec le Maroc et du coup il y a des par exemple des avocats Méadrine qui sont étiquetés Maroc mais qui en fait sont distribués par une entreprise israélienne, donc il faut aussi enfin en tout cas nous on appelle aussi à boycotter ces produits là.
Alors tu disais au niveau juridique donc il va y avoir une certaine période qui va s'écouler environ un an, c'est ça tu parlais, et quelle va être ensuite va y avoir l'examen du Conseil d'État sur la possible dissolution, qu'est-ce qui va se passer
Voilà, il va y avoir une nouvelle audience du Conseil d'État sur pour l'annulation ou non de la dissolution du collectif. Voilà, avec une discussion sur le fond des arguments portés par le ministère de l'Intérieur. Nous on a bon espoir que le Conseil d'État reconnaisse que cette dissolution était inappropriée et que c'était une attaque liberticide contre la liberté d'expression et d'association. En tout cas, c'est ce qu'elle a commencé à dire en adoptant la suspension de la procédure.
Ouais, c'est ce qui semble dans les arguments qui sont évoqués, utilisés, employés par le Conseil d'État, c'est que oui, ça rentre pas dans les clous, dans les bornes de la loi qui était utilisée par Darmanin. Bon, dans l'attente, on va utiliser tous les moyens possibles pour publiciser l'affaire et justement faire ce que ne veut pas le gouvernement français et Darmanin, c'est-à-dire parler de la Palestine et de la situation d'apartheid et du colonialisme israélien. On a eu l'occasion là depuis quelques jours. Les médias en l'occurrence sont revenus sur la situation palestinienne suite à l'assassinat de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, et de ses obsèques qui ont été plus que tourmentées puisque la police a attaqué le cortège funéraire.
Et les porteurs.
Ouais, et les porteurs à l'intérieur de l'hôpital Saint-Louis, qui est un hôpital normalement sous contrôle français. Mais bon, évidemment, ce fait divers était cet assassinat, il est bien évidemment révoltant, mais il conclut, il illustre la reprise d'une politique extrêmement agressive depuis maintenant un an. Contre les territoires occupés, contre la Cisjordanie, contre Jenin, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments d'actualité sur ce qui se passe depuis les incidents sur l'esplanade des mosquées, puis depuis quelques mois en Palestine, s'il te plaît ?
On voit en fait une intensification à la fois de la colonisation et du nettoyage ethnique, donc de la colonisation en Cisjordanie occupée, où notamment dans la région de Masafer Yatta, il y a le projet d'expulsion de plus de 1500 Palestiniens, qui est en fait le plus grand nettoyage ethnique en Palestine depuis la guerre de 1967, la Naxa. Quelque chose qui est très important, et il y a les Palestiniens de cette région qui se mobilisent contre ce nettoyage ethnique et qui appellent la communauté internationale à se mobiliser. Donc il y a cet élément-là. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a le projet de 4000 nouvelles implantations en Cisjordanie occupée qui ont été validées par les autorités israéliennes. Donc voilà une intensification de la colonisation en Cisjordanie, avec aussi un harcèlement militaire contre notamment les Palestiniens de Jenin. Pourquoi Jenin ? Parce que c'est un camp de réfugiés, mais c'est aussi le cœur de la résistance en Cisjordanie. C'est un symbole politique que l'occupation avait tenté d'écraser durant la deuxième intifada. Et puis on a vu aussi une politique coloniale et aussi de nettoyage ethnique dans le Nakab, au sud de la Palestine de 48, où à travers une politique d'implantation d'arbres du Front National Juif, le KKL, il y avait un déplacement forcé des Bédouins palestiniens. Donc ça, c'est la situation actuelle en Palestine occupée. À cela s'ajoute évidemment la situation à Gaza, qui subit toujours à la fois le blocus, mais aussi des bombardements extrêmement réguliers sur ces infrastructures. Et en parallèle, il y a la politique dans les territoires de 48 d'apartheid contre les Palestiniens, qui a été encore dénoncée par Amnesty International et différentes ONG de renommée mondiale. Donc la situation, c'est celle-ci du côté de l'offensive israélienne, mais on voit que le peuple palestinien, c'est pas un peuple de victimes, c'est un peuple résistant qui fait face à tout ça et avec une détermination qui force le respect. On l'a vu notamment en mai dernier avec l'intifada d'unité, où en fait le peuple palestinien, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza, dans les territoires de 48, ou dans les camps de réfugiés, ou même dans la diaspora en Europe ou ailleurs, ils se sont mobilisés et ont fait qu'un pour faire face à la fois à l'occupation et à l'apartheid israélien, mais aussi à ses complices, que ce soit les régimes arabes ou les puissances occidentales.
Oui, c'est ça. Et bon, le coup est terrible, puisque depuis mi-avril, il y a une trentaine de Palestiniens qui ont été tués, qui sont morts suite à cette intervention militaire, puisque on peut dire, le gouvernement Naftali Bennett a donné carte blanche aux militaires pour mater la résistance et pour mater la rébellion, notamment sur Jenin. Et puis de l'autre côté, il y a le gouvernement palestinien, donc l'autorité palestinienne, comme on dit, qui est complètement discréditée, complètement aphone, et puis certainement qui représente plus grand chose, quoi. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette autorité palestinienne qui...
Aujourd'hui, elle représente une bourgeoisie corrompue à la solde de l'occupation israélienne. Parce que concrètement, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, elle sert de chien de garde à l'occupation dans les territoires palestiniens en Cisjordanie, notamment à travers la coordination sécuritaire, où il y a une collaboration pratique et technique et politique dans la criminalisation de la résistance en Cisjordanie, à travers des arrestations, à travers une coopération dont les déplacements de l'armée israélienne. Donc pour nous, l'autorité palestinienne, elle fait partie du problème et pas de la solution, au même titre que les puissances occidentales ou que l'occupation israélienne et son gouvernement.
Oui, je pense que c'est très important de le rappeler, de pas se voiler la face d'être...
En plus, ils n'ont aucune légitimité. Il y a combien d'années où il n'y a pas eu d'élection en Palestine ?
Ah oui, ils n'ont aucune légitimité. ça fait 15 ans qu'ils sont en poste. Mais même en dépit de ça, c'est des gens qui en fait sont des bourgeois corrompus.
C'est bourgeois, c'est important de le dire.
Oui, et qui en fait, c'est la classe sociale qui s'est constituée autour du résultat des accords d'Oslo. Qu'en fait, les accords d'Oslo ont favorisé le développement de cette bourgeoisie qui a en fait a intérêt à collaborer avec l'occupation israélienne au détriment de la grande majorité du peuple palestinien qui subit de plein fouet. Les résultats de la politique d'occupation.
C'est ça, avec en plus un silence complet là-dessus. Tu l'as dit de façon de collaboration, quoi. Faut utiliser le mot sur la situation de Jérusalem Est et les assauts répétés et réguliers du sionisme religieux sur les symboles religieux et culturels du peuple palestinien, quoi.
Ah oui. De toute façon, pour nous, Mahmoud Abbas, quand on voit qu'il passe plus son temps à condamner des actes de résistance des Palestiniens ou à serrer la main à des criminels de guerre, les choses sont claires. Il n'y a rien à attendre de Mahmoud Abbas et de toute sa clique et de ses représentants, y compris en Europe.
Mais il faut aussi, et c'est pas souvent dit, mais faut pas non plus avoir une vision misérabiliste du peuple palestinien. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peuple qui est jeune, c'est un peuple qui a beaucoup de ressources, malgré évidemment la situation de merde dans laquelle il est, mais qui crée, qui a des outils, il y a des dizaines et des dizaines d'associations, c'est un peuple qui bouge, qui vit, qui se bat, qui résiste. Est-ce que depuis quelques années, il y a quand même des... Comment dire ça, des nouveaux mouvements ou des possibilités d'espoir et des choses collectives que tu connais qui se passent à l'intérieur de ce peuple.
Par exemple, notre collectif, il est partie prenante d'une initiative qui s'appelle Mazar Badil, le mouvement alternatif palestinien pour la voie révolutionnaire, qui est un mouvement qui regroupe des Palestiniens à la fois de Palestine occupée, mais aussi des camps de réfugiés et de la diaspora, et qui en fait organise principalement des jeunes Palestiniens dont l'objectif est de revenir aux principes politiques fondamentaux du peuple palestinien et de sa résistance à l'origine, c'est-à-dire une résistance anti-impérialiste, conséquente, qui porte un projet libérateur et émancipateur pour le peuple palestinien, c'est-à-dire une Palestine libre et démocratique de la mer au Jourdain. Donc ça, c'est par exemple l'initiative de Massar Badi, c'est quelque chose qui est important et significatif et qui est novateur dans la période et qui montre en fait qu'il y a une jeunesse qui à la fois se politise au vu de la situation et qui cherche des débouchés parce que qui voit bien qu'en fait le champ politique palestinien ça fait 15 ans qu'il est dans l'impasse et qu'il offre pas réellement de perspectives à la fois programmatiques, à la fois pour la jeunesse pour s'organiser, etc. Donc en tout cas nous on prend notre part dans cette initiative et on pense que c'est important d'arrêter avec le misérabilisme et de présenter les Palestiniens comme des victimes. Pour nous, c'est un peuple qui résiste. Et c'est parce qu'ils résistent que, ils n'ont pas été effacés de la carte encore aujourd'hui.
C'est ça.
Parce que s'ils n'avaient pas résisté, ça serait bien longtemps qu'on n'entendrait plus parler.
Oui, donc, pour nous, en tous les cas, nous, ici, c'est aussi un moyen de lutter contre notre propre impérialisme et de soutenir les tendances du peuple palestinien qui nous intéresse et de sortir de cette espèce d'alternative qu'on nous présente pour justement montrer qu'un peuple qui est en mouvement, un peuple qui bouge, c'est un peuple qui est créateur et qui produit du politique et qui produit des solutions. Et que les solutions, elles se trouvent d'abord dans les peuples qui sont en mouvement, pas forcément de la part de spécialistes autoproclamés ou de grandes instances qui viennent et qui discutent pendant des années et des années sous des conférences multiples et variées et qui n'aboutissent à rien, quoi, en fait.
Oui, et la révolte de mai dernier l'a montré, en fait, la solution, elle est dans l'unité du peuple palestinien, dans tous les territoires de Palestine, dans les camps de réfugiés, dans la diaspora. C'est ça qu'en fait qui porte une alternative, c'est en fait porter la résistance palestinienne sur une ligne anti-impérialiste qui est sans concession vis-à-vis des régimes réactionnaires arabes, qui est sans concession vis-à-vis de l'impérialisme occidental, qui est sans concession vis-à-vis de l'occupation sioniste et sans concession vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Parce qu'aujourd'hui, le peuple palestinien fait face à tous ses ennemis à la fois. Mmh. Et c'est pour ça que pour nous, c'est une cause qui est centrale politiquement, parce que en fait, elle a tous ses ennemis-là et qu'en fait, la libération du peuple palestinien, ça aura un effet considérable, y compris aussi en France, quand on voit à quel point Israël est un allié stratégique de la France.
Est-ce que tu crois que l'émotion qui a été soulevée par cet assassinat là de cette journaliste de Shirin Abu Akleh et puis la démonstration de force et de dignité qu'on a pu ressentir, moi j'ai regardé Al Jazeera en anglais cet après-midi là et c'était vraiment impressionnant. Alors d'abord de voir qu'on pouvait faire de l'information de correcte et de qualité sur ce qui se passe en Palestine, et puis de voir cette mobilisation populaire derrière cette journaliste, quoi. Alors, on va donner quelques explications pour les auditeurs. Donc cette journaliste, elle prend une balle dans la tête alors qu'elle a un casque et un gilet pare-balles presse, mais c'est pas n'importe quel journaliste, hein. C'est quelqu'un qui est depuis le début de Al Jazeera en anglais, donc depuis 20 ans. C'est une chrétienne américano-palestinienne, et c'est une star, quoi, en fait, hein. C'est une mascotte. Je sais pas, on pourrait donner un exemple, c'est l'équivalent d'une espèce de Christine O'Crane, quoi, comme ça, mais qui va sur le terrain, hein, qui va sur le terrain, qui reste pas derrière son bureau, quoi. Donc en termes de puissance, de symbole, c'est vraiment quelqu'un que les Palestiniens voyaient et que le monde arabe voyait tous les jours à la télévision, quoi. Est-ce que tu crois que cette indignation, je sais pas comment trouver autre mot, elle peut permettre de au peuple palestinien de reprendre quelques forces et de reprendre un peu la lumière, entre guillemets?
Tout dépendra de l'activité politique collective du peuple palestinien et de ses soutiens autour de cette affaire. Parce qu'évidemment, il y a une émotion, elle est légitime, et c'est, comme tu l'as dit, en fait, on mesure mal ici en France, mais en fait, Shirin Abu Akleh, c'était une icône dans le monde arabe et en Palestine. Voilà, après des assassinats et des exécutions extrajudiciaires, il y en a très régulièrement. Depuis 2000, c'est l'OLP déclare qu'il y a autour de 55 journalistes qui ont été assassinés par l'armée israélienne. Donc pour nous, l'émotion est légitime. On a organisé par exemple un rassemblement samedi, y compris pour lui rendre hommage. Maintenant, il faut comprendre qu'en fait, à travers cet acte-là, en fait, c'est tout le projet colonial sioniste qui s'est exprimé. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des actes isolés. Mettre une balle dans la tête d'une journaliste ou attaquer les funérailles d'une Palestinienne, ce ne sont pas des actes isolés et ça s'inscrit dans une logique. C'est la logique de la politique coloniale sioniste qui vise en fait à détruire le peuple palestinien par tous les moyens nécessaires, y compris les choses les plus abjectes et les plus inhumaines, qui sont d'attaquer des funérailles, mais ils font pas que ça, ils gardent aussi emprisonnés des corps de détenus, ils détruisent les maisons des Palestiniens de prisonniers, enfin voilà, donc des crimes de guerre, et ils en commettent très régulièrement. Il faut maintenant que ce moment d'émotion, on le transforme en un moment politique pour développer la conscience sur ce qui se passe en Palestine occupée.
Il y avait du monde à votre rassemblement, ça a fonctionné, vous avez rencontré une audience de l'écoute.
Oui, après le rassemblement, nous c'était pour célébrer la victoire avec le Conseil d'État, mais pour dire qu'en fait il fallait continuer à se mobiliser pour la Palestine. Il y avait environ 200 personnes, voilà, avec un large panel d'organisations aussi qui étaient en soutien. Et à la veille, on tenait un stand dans un marché populaire du Mirail à Toulouse. Et il y a beaucoup de monde qui ont témoigné de leur solidarité, qui connaissaient la journaliste. Donc voilà, ça ouvre aussi des discussions et des perspectives. Parce qu'en fait, les choses changeront quand on sera acteur de la solidarité, quoi.
Alors, je te propose on va faire une pause musicale, on va écouter Marcel Khalife, hein, normal, et on va te laisser reprendre ton souffle, et puis on consacrera la dernière partie de notre émission à Georges Ibrahim Abdallah et à la situation de ce prisonnier. À tout de suite.
زماني الغايب على حياة الفرحة تطأتيني بطأت مسئتيني زماني لغايب على حياة الفرحة
Alors voilà, c'était Bachar Khalife, je crois que je me suis trompé, je crois que j'ai dit Marcel Khalife, c'est son père, l'immense artiste libanais, l'occasion d'ailleurs de rappeler que normalement en ce moment il y a des législatives, des élections législatives au Liban, d'où malheureusement il y a peu d'espoir à attendre, même s'il y a eu un tout petit début de mouvement de révolte et de débouchés politiques là-dessus, mais bon, on verra bien les résultats de ces élections, mais malheureusement il n'y a pas forcément grand chose à en apprendre tant la domination des groupes politiques habituels au Liban, etc. Mais tout ça c'est une autre histoire, enfin quoique, Tom, tu es toujours là?
Oui.
Nous, on a un Libanais célèbre depuis des dizaines d'années en prison. Il s'appelle Georges Ibrahim Abdallah. Il est en phase de battre tous les records à la fois de résistance et d'incarcération. Peut-être d'abord, parce que les auditeurs, c'est peut-être un nom qui leur disent rien, parce que c'est un nom qui vient des années 80, même des années 70. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est cet homme?
Donc, Georges Ibrahim Abdallah, c'est un communiste libanais, qui s'est engagé au sein de la résistance palestinienne et notamment au sein du Front Populaire de Libération de la Palestine dans les années 70, à une époque où la résistance palestinienne s'organisait en dehors des frontières historiques de la Palestine. Notamment après le départ de l'OLP de Jordanie après Septembre Noir en 70, il y a une arrivée massive de combattants palestiniens au Liban qui impacteront profondément la vie politique libanaise. Et dans le cadre de cette dynamique, Georges Abdallah, qui est un jeune adulte, s'engage au sein de cette résistance palestinienne et du FPLP, comprenant qu'en fait le sort du peuple libanais est lié au sort du peuple palestinien et qu'ils ont un ennemi commun, c'est-à-dire l'impérialisme et le sionisme. Donc dans le cadre de cette résistance, Georges Abdallah a un rôle de premier plan au sein du FPLP et suite à l'occupation israélienne du Liban au début des années 80, il y cofonde une organisation qui s'appelle les Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises et qui donne comme objectif politique d'attaquer les intérêts impérialistes et sionistes partout où ils se trouvent, selon les principes de Wadi Haddad, qui est un des membres fondateurs du FPLP et qui était responsable des opérations extérieures. Dans le cadre de cet engagement militant, Georges Abdallah est arrêté à Lyon le 24 octobre 1984 et sera condamné pour complicité dans l'exécution d'un agent du Mossad et d'un agent de la CIA au début des années 80 en France. Et depuis 1984, il reste emprisonné, alors même qu'il est libérable depuis 1999, et sans parler des irrégularités qui se sont déroulées dans le cadre de son procès et des différentes pressions politiques qui sont exercées dans cette affaire, notamment des États-Unis.
Je me permets d'ajouter quelque chose sur le choix de la stratégie et de la lutte armée. Alors, c'est des choses qui aujourd'hui peuvent étonner les auditeurs ou les gens qui s'intéressent à la situation. Il faut se rappeler qu'à l'époque, comme tu l'as dit, Tom, les Palestiniens ont une lutte armée contre leurs occupants, que le commandement de l'OLP et l'OLP est expulsé de Jordanie et que les Palestiniens se retrouvent disséminés à l'intérieur de camps. Et c'est cette action armée, et notamment cette fameuse action de prise d'otages dans les avions, et l'explosion des avions vides avec cette comment dire ces images et cette action qui va entre guillemets faire éclater la cause du peuple palestinien sur la scène internationale et ce qui va vraiment quelque part j'allais dire transfigurer mais aussi transporter justement cette cause et faire que finalement ce problème enfin qui n'était pas pour nous un problème mais un problème qui pouvait être un problème régional devient un problème international qui fait que justement la communauté internationale comme on dit est obligée de s'en saisir. C'est pour ça aussi que le choix de d'Abdallah et de son organisation et de son organisation était aussi de d'utiliser cette stratégie quoi. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel ou oui, qui est complètement on va dire illuminé quoi parce que aujourd'hui quand on parle de ça les gens regardent toujours avec des gros yeux. Bon, voilà, ça c'était pour la précision. Donc depuis 1984, il est emprisonné. Il avait été condamné à quelle peine, Tom ?
À la perpétuité pour complicité d'assassinat, alors même que le procureur avait requis 10 ans de prison. Mais il a été prouvé après que notamment Reagan avait appelé Mitterrand pour s'assurer que la peine soit conséquente. Son avocat Mazurier a révélé plus tard travailler pour les services secrets français. Et juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, faut quand même se avoir en mémoire qu'en fait on parle de quelqu'un qui a lutté contre l'occupation de son pays, donc ça devrait parler à tout un chacun pour une cause internationaliste et anti-impérialiste, en sachant que au Liban à cette époque-là. C'est 20 000 victimes civiles faites par l'armée israélienne et ses alliés sur le territoire. C'est des massacres de Sabra et Shatila. Donc c'est des milliers d'hommes, femmes et enfants qui sont assassinés par les milices fascistes phalangistes avec l'appui israélien. Qui sont assassinés froidement et qui marqueront durablement l'opinion mondiale. Donc c'est dans ce contexte-là que Georges Abdallah s'engage dans une résistance contre l'occupation israélienne. Donc
oui, c'est super important de préciser,
désincarner, décontextualiser l'engagement en fait c'est aussi un engagement vital en fait pour le peuple palestinien et libanais qui est l'engagement dans la résistance.
Mais tu sais bien que ce sont ceux qui commandent qui décident qui sont les résistants et qui sont les terroristes, quoi.
Voilà. Exactement.
Voilà. Donc, 1984, donc ça fait, il attaque sa 38e année. Comment on peut rester 38 ans en prison en France ? Comment c'est possible ?
Alors, bah, c'est,
je te pose j'ai la réponse, moi. Mais je te pose la question naïvement.
Bah, en fait, ce qui est clair, c'est qu'il y a un chantage au reniement qui est opéré contre Georges Abdallah. Donc, c'est possible parce que, en fait, Georges Abdallah demeure ce qu'il est, ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un combattant communiste, un intellectuel arabe, un révolutionnaire internationaliste. Et c'est ça que le gouvernement français lui fait payer. Parce que, depuis 99, il a fait 8 demandes de libération conditionnelle, dont certaines ont été acceptées par la justice française. Mais bloqué notamment en 2013 par le ministère de l'Intérieur de l'époque, qui était Manuel Valls. Voilà, parce que la décision de libération a été conditionnée par la signature d'un arrêté d'expulsion du ministère de l'Intérieur. Donc c'est possible d'être emprisonné encore au bout de 37 ans, bientôt 38, par décision politique. Georges Abdallah, c'est un prisonnier politique et c'est même le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Dans le pays qui se dit le pays des droits de l'homme.
Ouais, bien sûr.
Ça ne manque pas de rappeler la prénature du gouvernement et de l'État français qui est un État réactionnaire et impérialiste.
Ouais, bien sûr, cette vieille fable qu'on raconte pour faire dormir les adultes, la France, le pays des droits de l'homme. Pour bien expliciter, tu l'as très bien dit, mais je le souligne pour mesurer l'absurdité du truc. C'est-à-dire que juridiquement, Abdallah peut être libre. Il suffit qu'un des ministres de l'Intérieur signe un arrêté d'expulsion. D'autant plus que le Liban est tout à fait d'accord pour accepter, accueillir Abdallah. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, aujourd'hui, la liberté d'un homme, elle est conditionnée, tu l'as dit, à une décision politique, quoi, en fait.
Exactement. Et c'est clair que... Et là, on a vu, notamment au début de l'année... encore l'imbroglio juridique s'accentuait parce que il y avait une requête qui a été déposée par son avocat auprès du tribunal administratif en février qui a été étudiée en février afin de, dans quelque sorte, qu'il oblige le ministère de l'Intérieur de signer un arrêté d'expulsion. Évidemment, le tribunal administratif a dit qu'il n'était pas habilité à cette prise de décision, mais que il a souligné qu'en fait la décision de la libération de Georges Abdallah était une décision politique et pas juridique. Donc voilà, les choses sont claires, et ce qui pour nous réaffirme encore plus clairement qu'en fait sa libération est conditionnée à un mouvement politique de solidarité. Voilà, parce qu'en fait, au même titre qu'il y a eu des grandes campagnes internationales pour libérer Angela Davis, pour libérer Nelson Mandela, etc., qui libérera Georges Abdallah aujourd'hui, c'est une campagne de soutien, de terrain, autour de la défense aussi de ses valeurs, de ce qu'il est. Et c'est ce qui a amené, par exemple, l'État libanais à se positionner. L'État libanais s'est pas positionné dès 1984. L'État libanais s'est positionné parce qu'en fait, aujourd'hui, Georges Abdallah est une figure politique incontournable au Liban et est une figure de gauche, anti-impérialiste. Par exemple, son portrait était brandi pendant les révoltes d'il y a quelques années contre la vie chère. Donc,
ouais, et Macron avait été pris à partie lors de sa minable visite après l'explosion du port lorsqu'il était s'était rendu à Beyrouth.
Oui, pas. Oui, il a été pris à partie à Beyrouth par des jeunes dans une capitale détruite par l'explosion, mais il a aussi été pris à partie à Tunis, en Tunisie, sur le cas de Georges Abdallah. Encore récemment, il était en visite dans les Hautes-Pyrénées, il a été pris à partie par le comité de soutien de Tarbes. Voilà, il y a une campagne internationale qui grandit en France, mais un peu partout dans le monde. Et pour nous, c'est le levier principal pour sa libération. Et c'est en tout cas ce à quoi on travaille avec acharnement. Mmh. Et c'est ce pourquoi le gouvernement français a voulu aussi mettre au silence à travers la dissolution, puisque c'est explicitement mentionné dans le décret de dissolution. Il nous reproche notre soutien à Georges Ibrahim Abdallah. C'est quand même un scandale. Il y a un prisonnier politique enfermé en France depuis plus de 37 ans. Et ils s'en servent, le fait qu'on le soutient, ils s'en servent pour justifier une dissolution. Mais il y a des outils qui aujourd'hui existent dans les campagnes de soutien et qui permettent son développement. C'est le cas par exemple du livre de Saïd Bouamama qui est l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Mais c'est aussi le cas du film Fedaïn, le combat de Georges Abdallah, qui a été projeté dans plus de 200 villes, voilà, et qui montre qu'en fait, il y a un intérêt croissant, à la fois pour son histoire, mais aussi pour le combat d'un homme et pour ce qu'il incarne, et pour ce qui est aujourd'hui un scandale d'État, très clairement, et qu'il y a une responsabilité de tout un chacun de le dénoncer.
Ce film est disponible en DVD.
Il est disponible en DVD, en VOD. Il y a des projections qui sont organisées dans différents festivals et dans des salles de cinéma. Les informations, elles sont disponibles sur fedaïn-lefilm.com.
C'est un excellent outil pour pouvoir discuter de tout ça. Et puis, tu l'as dit, quand même, de montrer et de démontrer les contradictions de l'État français. Par rapport à cette situation, hein, tu as parlé de Nelson Mandela. Alors, faut à chaque fois que vous passez devant un collège, un lycée ou une mairie ou un espace Nelson Mandela, c'est marqué pacifique et non violent. C'est pas vrai, hein. Nelson Mandela, il a été le dirigeant de l'organisation armée de l'ANC. Hein. Ça s'appelle l'UWE. Hein. Faut jamais l'oublier ça. Hein, encore. Mais on le répète, hein, ce sont ceux qui commandent, qui décident, qui sont les résistants et qui sont les terroristes. Tom, il nous reste deux, trois minutes. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques outils pour pouvoir se tenir au courant des actions du collectif Palestine Vaincra? On rappelle que l'émission est diffusée à Toulouse, donc c'est chez vous, hein. Donc il faut en profiter. Et puis comment on peut faire pour vous soutenir et puis pour vous rejoindre s'il y a des gens qui écoutent et qui ont envie de s'impliquer un peu plus, quoi?
Eh bien, on peut aller sur notre site internet qui est palestinevaincra.com. Voilà, on invite tout le monde à relayer nos articles, à relayer nos campagnes, etc. On invite aussi les gens à aller sur samidoun.net, qui est le site de notre réseau international. Et voilà, par exemple, il y a Samidoun qui existe en région parisienne. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitent pas à les contacter. Et puis après, pour nous, le soutien qui est le plus important, c'est que chacune et chacun développe dans sa ville, dans son quartier, la campagne de boycott d'Israël, la campagne pour la libération des prisonniers politiques palestiniens et notamment Georges Abdallah, la campagne de défense et de soutien du peuple palestinien et de sa résistance, lutter contre la criminalisation de la solidarité avec la Palestine, etc. Donc ça, pour nous, c'est le soutien le plus significatif que à 2, 3, 4 ou plus, on monte des associations, des collectifs et qu'on fasse vivre la solidarité avec la Palestine comme une lutte anti-impérialiste, anticolonialiste et antiraciste.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin forcément d'être super, super carré, super au point avec 2-3 potes, 2-3 copains. Il suffit d'être un peu intelligent, un peu solidaire, et puis on peut commencer comme ça, quoi.
Et puis on peut nous contacter.
Ouais. Pour le coup de main, ouais.
Pour donner des ressources, ouais. Donner un coup de main aussi pratique, etc. Que les gens n'hésitent pas, et que nous, on a vu qu'on a commencé à petit et que notre audience a grandi de plus en plus et que. Que les gens ils veulent être acteurs de la solidarité, pas juste spectateurs, mais il faut aussi mettre à disposition des outils et des cadres qui le permettent.
C'est ça. Et puis il y a la campagne BDS aussi qui a de nombreuses ressources en ligne qui permet d'expliciter les objectifs et les moyens de cette lutte. Donc en conclusion, merci beaucoup Tom, et puis que mille comités Palestine vaincra fleurissent, quoi.
Merci beaucoup.
À bientôt, salut.
À bientôt.
Au revoir.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitif sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.